Vous êtes avec SBS French.
Le gouvernement fédéral répond au rapport du commissaire à la discrimination sexuelle sur le respect au travail. Les régulateurs australiens examineront un lien possible entre le vaccin AstraZeneca et des troubles de coagulation sanguine. Et en France, alors que les vaccinodromes se multiplient, des médecins de ville se plaignent du manque de doses vaccinales. Le gouvernement fédéral dit qu'il adoptera les recommandations d'un rapport sur le harcèlement sexuel au travail. La commissaire à la discrimination sexuelle, Kate Jenkins, a remis son rapport « Respect au travail » contenant 55 recommandations au gouvernement au mois de janvier de l'année dernière. Le gouvernement a finalement répondu, affirmant qu'un ensemble de réformes législatives visant à renforcer les protections contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail sera présenté au Parlement cette année. La procureure générale Michaela Cash a déclaré que parmi les changements législatifs à apporter, il y avait l'extension de la loi sur la discrimination sexuelle pour inclure les juges et les membres du Parlement, ainsi que la clarification du fait que le harcèlement sexuel d'une personne est un motif valable de licenciement.
Sexual harassment, it is just unacceptable anywhere in society. Our response, the roadmap for respect, provides a clear path for action to achieve meaningful cultural change across the nation and to deliver safer workplaces for all Australians.
Le gouvernement fédéral a demandé aux régulateurs médicaux et vaccinaux australiens d'examiner de toute urgence les conclusions de l'Agence européenne des médicaments, l'EMA, d'un lien potentiel entre le vaccin contre le COVID-19, AstraZeneca, et des problèmes de coagulation sanguine. L'EMA a examiné des dizaines de cas provenant principalement d'Europe et du Royaume-Uni, où des dizaines de millions de personnes ont reçu le vaccin. Il a révélé que la plupart des cas de coagulation signalés étaient survenus chez des femmes de moins de 60 ans dans les deux semaines suivant la vaccination, mais sur la base des preuves actuellement disponibles, il n'a pas été en mesure d'identifier des facteurs de risque spécifiques.
We've got the best people in the world looking at these issues to give us the medical expert advice. Our government has always approached this pandemic and all health issues to be led by medical expert evidence and advice, and we'll be taking that today, and the decisions will follow from that.
Pendant ce temps, à la suite des conclusions de l'EMA, les pays d'Europe modifient les exigences d'âge pour le vaccin AstraZeneca. Les autorités sanitaires du Royaume-Uni recommandent que des vaccins alternatifs soient administrés aux adultes de moins de 30 ans, lorsque cela est possible. De leur côté, les autorités allemandes affirment que les personnes de moins de 60 ans qui ont reçu le premier vaccin AstraZeneca recevront désormais une deuxième dose d'un autre vaccin. Et la ministre espagnole de la Santé, Carolina Darias, a déclaré que les vaccins AstraZeneca ne seront administrés qu'aux personnes de plus de 60 ans en Espagne.
Based on the available information, as of today and as a precautionary principle, it is recommended to use AstraZeneca's vaccine in people aged 60 years and over. I proposed it to the interterritorial meeting and it has been approved by a large majority. So the vaccination strategy will now pivot in relation to the AstraZeneca vaccine.
Le premier vol international en près de deux mois a atterri à Melbourne tôt ce matin. Ceci intervient après la reprise du programme de quarantaine des hôtels au Victoria. L'aéroport de Melbourne s'apprête à recevoir plus d'une centaine de voyageurs de retour de l'étranger tout au long de la journée à bord de vols en provenance de Colombo, Doha, Dubaï et Singapour. Les passagers seront conduits à l'Holiday Inn de l'aéroport de Melbourne et à l'Intercontinental sur Collins Street en milieu au centre de Melbourne pour y effectuer leurs 14 jours de quarantaine obligatoire. Le programme de quarantaine des hôtels a été remanié au mois de décembre dernier après une enquête judiciaire. Et d'autres révisions de la procédure avaient commencé au mois de février dernier sous la houlette du directeur adjoint de la santé, Alan Cheng, et Safecare Victoria à la suite d'une autre fuite du virus. Et en marge du cabinet national qui se tient demain, la première ministre du Queensland, Anastasia Palaszczuk, dit qu'elle va soulever la nécessité d'un sommet dédié aux femmes afin d'y aborder les inégalités entre les sexes. L'Australie travaillera à un objectif d'élimination de la violence à l'égard des femmes et des enfants lorsque les dirigeants se réuniront pour le sommet national sur la sécurité des femmes le 29 et 30 juillet prochain. Le sommet contribuera à façonner ce que le prochain plan national des réductions de la violence à l'égard des femmes et de leurs enfants cherchera à résoudre. Mais Mme Palaszczuk a déclaré à la chaîne Seven Network qu'un sommet distinct était nécessaire pour les autres problèmes rencontrés par les femmes.
Women are paid less than their male counterparts. It's about 15% in that pay gap. We know that women have less superannuation. We know that women have to juggle part-time or full-time work and childcare. We need affordable childcare. And we also know the issues of sexual harassment. Now is the opportunity, now is the time. So I'm going to be raising this tomorrow.
Et en France, alors que les vaccinodromes se multiplient sur l'ensemble du territoire, les médecins des villes, eux, font face à une pénurie de doses. Écoutons Philippe Vermeche, président du syndicat de médecins libéraux.
On s'aperçoit aujourd'hui que le secteur libéral ambulatoire de la ville n'a à disposition que l'AstraZeneca. Et l'AstraZeneca, aujourd'hui, on voit bien que les patients français donc, ont une réticence à se faire vacciner avec ce vaccin. Donc nous avons demandé à ce que le ministère nous autorise à vacciner avec du Pfizer, qui est une grosse dotation. Le ministère nous l'a refusé et on s'aperçoit progressivement que ce sont les centres de vaccination, voire les vaccinodromes, comme on les appelle, puisque on est dans la communication, chaque élu aujourd'hui de son territoire veut un vaccinodrome pour montrer qu'il va vacciner, et donc qui sont en priorité servis en termes de doses de vaccins, voire même d'AstraZeneca. Et aujourd'hui, cette semaine, on nous promet un flacon de 10 doses d'AstraZeneca par médecin en France. Voilà, c'est pour ceux qui l'ont demandé. Et 2 flacons par pharmacie. Donc on est loin du compte par rapport à ce qui est déversé sur les vaccinodromes.
Et en pleine troisième vague de l'épidémie de COVID-19, hier, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, les organisations syndicales des soignants de France avaient convoqué un rassemblement devant les locaux du ministère de la Santé. Ce, pour présenter leur colère et des demandes au gouvernement, notamment plus de moyens pour exercer leurs fonctions. Mathieu Bonnour était sur place pour RFI.
Pas de médailles, mais des réouvertures de lits, peut-on lire sur une des pancartes. Les soignants prennent la parole à tour de rôle pour crier leur colère sous les fenêtres du ministère de la Santé.
Des centaines, des dizaines de milliers de personnes sont hospitalisées dans des conditions qui ne sont pas dignes d'un pays tel que la France.
Annick et Dorothée travaillent depuis plus de 20 ans dans le système de santé publique. Elles sont là pour exprimer colère et mal-être en pleine période de pandémie de coronavirus.
C'est un choix, c'est une passion, mais travailler dans ces conditions, c'est un peu difficile.
On veut être au service des autres et en fait, c'est douloureux au quotidien dans l'exercice de nos métiers, puisque on ne peut pas être content du travail qu'on fait.
Emmanuel Séris représente l'Association des médecins urgentistes de France. Les mains rouges et sèches à cause du gel hydroalcoolique, elle en a marre de ne pas être entendue.
Déjà rien que une réouverture des discussions. Parce que si vous voulez là, c'est une fin de non-recevoir. C'est pas un dialogue en fait, c'est un monologue.
Les revendications sont nombreuses et connues. Hausse des salaires de 25%, gel des fermetures de lits, ainsi que 3000 lits de réanimation supplémentaires. De son côté, le gouvernement a promis d'atteindre le nombre de 10 000 lits de réanimation en période de crise sanitaire.
Et les Nations Unies ont accueilli favorablement le plan des États-Unis visant à relancer le financement de l'agence onusienne d'aide aux réfugiés palestiniens. L'administration américaine prévoit de redémarrer l'aide économique au développement et humanitaire pour le peuple palestinien, y compris une augmentation de près de 200 millions de dollars australiens pour l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, l'UNRWA en anglais. Ceci fait partie des mesures destinées à réparer le lien entre les États-Unis et les Palestiniens après la présidence de Donald Trump. Selon Philippe Lazzarini, le commissaire général de l'UNRWA, c'est une excellente nouvelle pour l'agence.
The money component is very important because, as you know, UNRWA has gone through a terrible financial crisis. But this re-engagement means also that there will be political engagement, political support, and I really hope that it will signal for others that it is time to continue to invest in UNRWA.
Et toujours au Moyen-Orient, le roi Abdallah de Jordanie a abordé la rare fracture publique au sein de la famille royale, affirmant que la sédition présumée qui lui avait causé colère et douleur avait été enterrée. Cette déclaration marque la première fois que le roi aborde la crise interne qui a éclaté le week-end dernier lorsque son demi-frère, le prince Hamza, a été assigné à résidence. Le prince Hamza a été accusé de faire partie d'un complot visant à déstabiliser le royaume. Mais le roi Abdallah dit que rien n'est comparable au choc, à la douleur et à la colère qu'il a ressenti en tant que frère et chef de la famille hachémite à propos du complot présumé. Selon le roi Abdallah, la Jordanie est maintenant stable et en sécurité et l'ancien prince héritier est sous sa garde. L'ambassadeur du Myanmar au Royaume-Uni a été empêché d'accéder aux locaux de l'ambassade du Myanmar à Londres après avoir appelé à la libération du dirigeant détenu Aung San Suu Kyi. L'ambassadeur Kwaw Swar Min dit qu'il a été empêché d'accéder aux locaux de l'ambassade après s'être prononcé contre le coup d'état militaire qui sévit au Myanmar depuis le mois de février dernier. Pendant ce temps, au moins 15 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées au Myanmar après que les troupes ont ouvert le feu sur des manifestants pro-démocratie. Environ 600 civils ont été tués par les forces de sécurité du Myanmar depuis que l'armée a pris le contrôle du pays. L'avocat d'Alexei Navalny, la figure de l'opposition russe qui est emprisonné, a déclaré que les médecins avaient découvert qu'il souffrait de deux hernies. M. Navalny a entamé une grève de la faim la semaine dernière pour protester contre les soins médicaux médiocres qu'il dit recevoir en prison. Il souffre de graves douleurs au dos et aux jambes depuis quelques semaines. Selon Olga Mikhailova, l'avocat de Navalny, ce dernier aurait commencé à perdre la sensation dans ses jambes et ses mains.
We have sent a lawyer's request to the neurologist and explained to him the diagnosis that was announced to Alexei, that he has two hernias and a protrusion. Now it's in an acute stage. Magnetic resonance imaging showed it. Alexei wasn't given the MRI and he wasn't shown the medical assessment either. He was only allowed to write down his assessment.
Mais le service pénitentiaire de l'État russe insiste sur le fait que M. Navalny reçoit toute l'aide médicale dont il a besoin. Et un mot de sport, Lydia Williams, la gardienne des buts des Matildas, a fêté sa 16e année avec l'équipe nationale, devenant par la même occasion la doyenne du football féminin australien. La star d'ascendance aborigène a été sélectionnée pour la première fois en équipe nationale à l'âge de 17 ans en 2005. Et en marge des prochaines rencontres contre l'Allemagne et les Pays-Bas, la star des Matildas affirme que l'Australie a un avantage sur ses adversaires malgré les revers causés par la pandémie.
Obviously, we've done a lot of Zoom sessions and caught up online, but to be here in person and learn more about each other and Tony, the new coach, and how he want to play, I think has been really valuable. So yeah, we're trying to soak in as much as we can. Obviously, we don't have much time together, and I think it's just more the advantage that we have is that we've known each other for such a long time and played together.
Un coup d'œil météo à travers l'Australie, Perth 27 degrés, Adélaïde 31, Melbourne 29, Hobart 23, Canberra 25 degrés, Wollongong 24, Sydney 26, Newcastle 25, Brisbane 29, Cairns 32 et Darwin 33 degrés. Et un rappel des titres de l'actualité, le gouvernement fédéral répond au rapport du commissaire à la discrimination sexuelle sur le respect au travail. Les régulateurs australiens examineront un lien possible entre le vaccin AstraZeneca et des troubles de la coagulation sanguine. Et en France, alors que les vaccinodromes se multiplient, des médecins de ville se plaignent du manque de doses.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.